Ce soir, sur Campus Grenoble.
90.8.
Nous ferons ce qui est interdit.
Nous irons ensemble à la buvette.
C'est l'apéro.
Phonie.
L'exception radiophonique.
L'apérophonie.
De la culture.
Et de la musique.
Au shaker et à la cuillère.
Campus Grenoble 90.8.
Et bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez l'apérophonie sur Radio Campus 90.8. Aujourd'hui, on va parler de la mobilisation nationale de la semaine prochaine, donc le 16, 17 et 18, pour la lutte des travailleurs et travailleuses sociaux. On a avec nous donc trois travailleurs sociaux et une personne qui est concernée en termes de handicap. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu rapidement, qu'on fasse un petit tour de table, s'il vous plaît, si ça vous dérange pas?
Allez, je me lance. Moi, je suis Florence, je suis travailleuse sociale depuis une quinzaine d'années et je travaille actuellement dans une association de réinsertion qui fait de l'accès et du maintien dans le logement sur l'agglomération grenobloise et une grande partie du département.
Idriss, je suis assistant social en polyvalence de secteur. On pourra détailler un peu plus tard ce que c'est depuis une dizaine d'années.
Bonsoir, je suis Cécile, je suis aussi travailleuse sociale en polyvalence de secteur depuis presque 20 ans.
Et moi c'est Colin, du coup j'ai un trouble du spectre autistique, j'ai aussi un TDAH que j'ai découvert il y a pas longtemps, mais qui est là depuis toute ma vie, je suis aussi depuis quelques années dépressif.
Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le pourquoi du comment, les causes de cette mobilisation? Donc on sait qu'elle a lieu à l'issue, entre guillemets, des 13e rencontres nationales du travail social en lutte qui ont eu lieu en octobre. Est-ce que vous pouvez un peu nous en dire plus sur, sur les causes de cette mobilisation?
Ça fait plusieurs années qu'à Grenoble, au sein du travail social, on s'organise en assemblée générale depuis 2019. Et l'Assemblée générale du travail social, elle réunit des collègues de tous secteurs, syndiqués ou non syndiqués, étudiants aussi du travail social. Et à travers cette Assemblée générale, on se réunit régulièrement et on partage un peu nos difficultés sur nos différents lieux de travail, nos différentes institutions et les différentes missions qu'on a à remplir. Et c'est à travers elle qu'on organise généralement nos mobilisations et l'Assemblée Générale du Travail Social de Grenoble participe très régulièrement aux rencontres nationales qui sont des rencontres qui réunissent tous ces collectifs locaux et des fédérations syndicales et des syndicats locaux. Et c'est effectivement au cours des échanges qu'il y a eu à ces dernières rencontres qu'a été décidé ces trois jours de mobilisation pour visibiliser le travail social, porter nos revendications pour plus de moyens, de meilleures conditions de travail, meilleures conditions d'accompagnement. Et donc on est le relais local de cette mobilisation appelée nationalement pour les 16, 17 et 18 décembre.
D'accord, très bien. Et dans cette mobilisation, donc, en fait on dit souvent travail social, ça inclut quoi pour les gens qui n'y connaissent pas grand-chose? Vous êtes des salariés, il y a aussi des gens qui sont concernés du coup, qui viennent à cette mobilisation.
Alors le travail social, c'est quelque chose qui est très très large. En fait, je pense que chacun plus ou moins dans sa vie aura affaire au travail social de près ou de loin. Et en gros, vous compléterez les collègues, mais pour moi, ça englobe tout le champ du handicap, donc tout handicap confondu. Il y a toute la question de la protection de l'enfance, la question du vieillissement aussi, et tout ce qui est la réinsertion, soit par le logement, soit par l'emploi. Et après, tous les publics qu'on dit avec droits minorés, donc personnes demandeuses d'asile, personnes avec des parcours de prostitution. Et puis, moi, je trouve que c'est intéressant aussi d'inclure le travail social dans quelque chose de plus large du travail du care, Et à ce moment-là, on se sent proche aussi des personnes qui travaillent avec les personnes âgées, qui travaillent avec, dans le cadre de la petite enfance, avec les enseignants, avec les gens qui travaillent aussi dans la culture. Parce qu'en fait, l'idée, c'est aussi de... Enfin, quand on parle de travail social, on défend aussi un projet de société plus large, où en fait, on estime que la solidarité doit avoir toute sa part, quoi.
Et du coup, je vais m'adresser à toi, Colin. C'est important pour toi de militer pour cette cause ?
Oui. Alors, d'abord, moi, je milite depuis très jeune pour d'autres causes en lien avec mon futur, en lien avec les animaux. Et à côté de ça, j'ai beaucoup de problèmes d'inclusion dans tout ce qui est de ma vie. Et du coup... sans me rendre compte, je suis obligé déjà de, avec mes parents, je suis obligé de lutter face au système qui soit ne veut pas de moi, soit fait en sorte de ralentir mon amélioration, disons, et soit en fait je dois me battre, soit en fait c'est soit une lutte acharnée obligée en fait, sinon... On ne devient pas bien, on ne se sent pas bien et voilà.
Et, oui.
En fait, ce que soulève Colin, c'est aussi la question des moyens. C'est-à-dire que il faut bien voir que le travail social s'inscrit dans des politiques sociales dont découlent des dispositifs et que ces dispositifs dysfonctionnent notamment dans le champ effectivement du handicap, où par exemple les places sont quasi impossibles à avoir pour des personnes en situation de handicap. Et là, c'est ce que souligne plutôt Colin, en fait. C'est les dysfonctionnements des institutions dans ce champ-là particulièrement.
Ok, très bien. Et j'ai une question. Est-ce que ça, par rapport au handicap, ça inclut forcément une prise en charge? Ou c'est ça va aussi à la juste à un diagnostic où on peut avoir des soucis pour avoir des diagnostics justes, ou c'est forcément une prise en charge je veux pas dire hospitalière mais une prise en charge un peu plus, je sais pas comment dire sans être offensante, en fait un peu plus lourde avec des grosses guillemets.
En fait, le système, il fonctionne depuis le départ. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il est déjà compliqué d'avoir rendez-vous avec un médecin généraliste, puis avec un médecin spécialisé, puis avoir une place en établissement, en fait, la chaîne, dès le départ, elle dysfonctionne.
Oui, on y va.
Je rajouterais que, en fait, ce qui a été compliqué, ce que je me souviens qui a été dit par mon médecin généraliste, c'est que, pour les personnes handicapées, c'est qu'on n'a pas de médecin spécialisé justement pour nous, personnes handicapées. Et du coup, c'est lui, mon médecin généraliste, qui doit s'occuper de, par exemple, dossiers qu'il doit remplir sans savoir forcément s'y connaître. Ou, voilà. Et du coup, c'est compliqué de savoir vers qui s'adresser. Et, voilà. Et pour tout, en fait, pour toute situation, en fait, il va avoir... beaucoup d'attentes.
Ouais, et puis il y a une espèce de brouillard de l'information, je pense, un peu.
En fait, ouais.
Oui.
Moi, ce que je me rends compte, pour avoir exercé dans différents champs du travail social, c'est qu'en fait, le diagnostic et les politiques, elles sont là. Et en fait, la politique sociale en France est assez ambitieuse. Quand on regarde dans les textes, là, si on reprend ne serait-ce que le champ du handicap avec la loi de 2005, ça fait quand même plus de 20 ans qu'on est censé avoir une loi qui pose l'inclusion des personnes situées en centre de handicap comme une évidence, que ce soit à l'école, que ce soit au travail. Et en fait, les textes, ils sont chouettes, l'esprit de la loi est chouette, mais en fait, dans les faits, ça dégringole et de plus en plus.
C'est pas appliqué correctement.
C'est pas appliqué correctement et c'est pas faute que les décrets soient là. C'est pas faute que les associations de parents, de personnes concernées soient montent au créneau. Mais en fait, les moyens sont pas en rendez-vous. C'est la même chose dans la protection de l'enfance, c'est la même chose dans le logement, en fait. Les constats, ils sont là, les lois, elles existent. mais on n'a pas les moyens en fait que ces projets-là, qui pour moi sont ambitieux et sont chouettes, puissent être appliqués. Donc nous, on est là à galérer avec ça, on nous demande de faire des choses et on n'a pas les moyens de le faire. Et c'est ce qui crée aussi, tu vois, de la souffrance au travail pour les travailleurs sociaux et bien sûr de la souffrance pour les personnes concernées.
Et du coup, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une mobilisation la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a un moment un peu phare? Est-ce qu'on peut un peu parler de ce qui se passe la semaine prochaine? Est-ce qu'il y a... je sais qu'il y a la manifestation le 16 à 13h30, qui est assez... Je pense qu'il y a un moment assez important des 3 jours de mobilisation. Est-ce que vous voulez un peu développer sur le programme des 3 jours?
Ce qu'on espère, en tout cas, sur les 3 jours, c'est qu'il y ait un certain nombre de collègues qui... se motive et arrive à se mettre en grève sur les 3 jours, parce qu'on pense, en tout cas à l'AG du travail social et aux rencontres du travail social, que la grève est notre outil et qu'il faut qu'on arrive à stopper le travail, à faire fermer des services. On a écrit un texte à l'AG dans ce sens pour expliquer ce qu'est la grève et ce que signifie de fermer un service et comment on peut arriver à s'en rendre capable. Et déjà, on espère que on arrivera chacun dans nos services et nos boîtes à stopper le travail sur ces 3 jours. Après, effectivement, il y a des actions plus visibles que la grève. La grève, elle est visible par nos employeurs, mais on a aussi envie de se visibiliser publiquement. Et dans ce sens-là, il y a effectivement une manifestation au départ de la DDETS, donc Avenue Marie-Rénoir, qui est... qui concentre les services de l'État en charge du travail et des politiques sociales, et notamment il y a là-bas le bureau d'accès au logement pour les personnes défavorisées, et puis tout un tas de services qui sont rattachés à cette direction et qui se raccrochent à la solidarité. Donc on partira, et c'est pas la première fois qu'on part de là avec des prises de parole devant à 13h30 pour se rendre devant l'hôtel du département de l'Isère, le conseil départemental, qui est en tant que collectivité territoriale, principal financeur et porteur des dispositifs d'action sociale et des services d'action sociale. Après, on aura une assemblée générale, parce qu'on pense important que quand on est en grève et mobilisé, on puisse se retrouver et organiser la suite. Donc, ce sera à 15h30. Et vraiment, on invite les collègues, en plus de se mettre en grève et de manifester, à aussi rester pour ces temps-là.
À s'impliquer
et puis à venir partager aussi. Qu'on apprenne à se connaître. On est éparpillé. En fait, le travail social, c'est les professionnels qui portent l'ensemble des politiques sociales et les politiques de solidarité. Mais on ne se connaît pas nécessairement. On peut être dans des secteurs assez différents. Géographiquement, on est éclatés. Nos employeurs sont éclatés et du coup, on ne se voit jamais. Et donc, si on arrive à se mettre en grève massivement, à manifester ensemble, ça permettra de se montrer. Mais si on veut vraiment se connaître et construire la suite et tenir dans la durée, il faut qu'on arrive à se réunir en assemblée générale. C'est essentiel.
Pour être soudés, et puis parce qu'au final, vous avez tous les mêmes problématiques, mais un peu dans votre coin, du coup, je suppose. Chacun dans vos domaines.
Malheureusement, les assemblées générales, elles servent souvent à se dire que oui, c'est la même galère partout, les mêmes galères partout. Et donc, d'où l'importance de se le dire et puis d'arriver ensuite à construire des mobilisations ensemble pour essayer de maintenir ce qu'on a quand ce qu'on a n'est pas trop mal et se défendre pour plus de moyens et de meilleures conditions d'accueil et d'accompagnement pour les personnes qu'on reçoit. Donc ça, c'est voilà, le gros programme du mardi. J'enchaîne sur le mercredi. Mercredi, on fera un piquet de grève devant Ocelia, qui est une des 2 écoles de formation du travail social à Grenoble. Donc il y a l'IUT rattaché à l'UGA et puis il y a Ocelia, anciennement IFTS. Et donc à partir de 8h, on tiendra un piquet de grève devant à Échirolles pour, de la même manière, aller à la rencontre de nos futurs collègues, leur dire que y a des étudiants et des étudiantes mobilisés, d'ailleurs, avec nous. C'est important de le souligner. Et puis nous, on pense qu'on peut aussi apporter quelque chose sur ces mobilisations, en venant montrer que nous, professionnels, on est impactés, mobilisés. Et c'est pas pour les démoraliser, mais au contraire, leur dire qu'on peut se mobiliser toutes et tous ensemble et qu'on sait que les conditions d'études sont extrêmement compliquées et que les conditions de travail des formateurs et formatrices sont, elles aussi, très dégradées.
On peut ajouter que c'est aussi important parce qu'il y a une réforme du diplôme actuellement au niveau du travail social. avec l'idée de gommer de plus en plus en fait les disparités. On va dire qu'il y a des métiers historiques dans le travail social, comme l'éducation spécialisée, les assistants sociaux, les conseillers en économie sociale et familiale, les moniteurs éducateurs, et puis bien d'autres que j'oublie. Mais voilà, l'idée, c'est de pouvoir un peu gommer ces différences pour aller vers de plus en plus de troncs communs et de plus en plus de... Voilà, que les gens puissent, entre guillemets, les utiliser où on veut et que la formation, en fait, soit de moins en moins spécialisée.
Oui, ce sera un temps important aussi, ce piquet de grève, qu'on espère, alors, encore une fois, massif, mais important de dire que dans le travail social, on est attaché à notre travail, on est attaché à nos conditions de travail, on est attaché à pouvoir accompagner les gens correctement et on est aussi attaché à notre travail... Nos formations, ce qu'on a appris, ce que être travailleur ou travailleuse sociale signifie, ce que ça veut dire d'être là pour porter des politiques sociales et des dispositifs d'action sociale qui ne sont pas toujours parfaits, mais qui sont rattachés à un système quand même d'organisation sociale basé sur la solidarité et sur une forme de progrès social. Et voilà, enfin, je te disais tout à l'heure... On est vraiment bien doté en France en termes de politique sociale et on a à cœur de défendre ça. Et ça, on l'apprend aussi en formation. Et je pense, quand on est professionnel et qu'on a connu les anciennes moutures de la formation du travail social, des formations du travail social, on est aussi attaché à ça et on nous fait souvent passer pour des gens qui sont contre l'innovation, le changement, etc. Mais on est surtout attaché à des valeurs fortes voilà, en termes d'éthique et de déontologie. On a aussi envie de défendre ça et de le visibiliser, dire qu'être dans le travail social... C'est aussi porter toutes ces valeurs-là. Et aller devant l'école pour le dire, c'est aussi le signifier, je pense.
Et puis aussi, il y a la question de gommer les spécificités. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je suis assistante sociale, je ne suis pas éducatrice spécialisée. Je n'ai pas choisi d'être éducatrice spécialisée pour des tas de raisons qui m'appartiennent. Et qu'à un moment, faire un diplôme un peu fourre-tout, bah, ça empêche quelque part les personnes à aussi pouvoir s'impliquer dans ce qu'elles ont réellement envie de faire.
Oui, ça devient un diplôme qui est trop générique, entre guillemets.
Bah moi, je trouve, oui.
C'est ce qui est préoccupant sur les réformes successives du diplôme. Alors, on n'est pas encore sur le diplôme unique. Ils n'ont pas réussi à aller jusque-là, mais on sait que c'est l'ambition du gouvernement actuel et puis même des gouvernements précédents, c'est d'aller de plus en plus vers le diplôme unique et de faire de nous des techniciens et des techniciennes. Et en fait, d'essayer de niveler vers le bas les professions, clairement. Il y a dans le tronc commun beaucoup de la partie théorique, sciences sociales qui est retirée. Ça, pour le coup, c'est déjà passé. Et de faire des techniciens et des techniciennes et ensuite de nous pousser de plus en plus à aller vers des postes de cadre, une fois qu'on est sur le terrain, de faire de la formation complémentaire. Et en fait, de créer une distinction entre des techniciens et techniciennes de terrain et des cadres et d'aller dans une forme de division du travail ultra-libérale. Et c'est aussi s'opposer à ça que de dire qu'on veut défendre nos diplômes actuels.
Bah, ça prend presque, d'après ce que j'entends, ça prend presque plus en compte que vous travaillez avec des humains, mine de rien. Enfin, qu'il y a quand même, y a quand même des gens, vous encadrez des gens. Ça, c'est pas rien.
Bah, la déshumanisation, déjà, elle passe par exemple, notamment dans le secteur dans lequel je travaille, par tout ce qui est de l'approche numérique, de toute la fracture qu'il peut y avoir autour de tout l'accès aux droits pour les personnes que nous accompagnons. Par exemple, là, elle est très réelle dans notre quotidien. C'est-à-dire que quand tu dis on ne prend pas vraiment en compte les individus que l'on reçoit, mais notre société et la façon dont sont accessibles les droits, déjà, commencent par déshumaniser notre travail.
Oui, bah oui, être remplacé par des machines.
Et puis je rajouterais que, du coup, on est dans une société validiste et que, du coup, les personnes qui ne sont pas valides, donc les personnes qui ont des handicaps ou des maladies, autrefois, on était considérés tout simplement comme malades et tout ça. Aujourd'hui, on peut encore dans certaines structures, mais c'est un peu avancé. Mais tant qu'on ne travaille pas, on n'est pas considéré comme quelqu'un qui est prêt à agir pour la société. Et donc on est un peu cassé Et du coup, on ne va pas être aidé par la société, pas être reconnu de la même manière. Et du coup, c'est beaucoup plus compliqué de faire les choses pour être aidé par des moyens financiers ou humains ou tout autre.
Voilà. Il y a un peu cette reconnaissance du handicap qui n'en est pas totalement une, finalement. En fait, il y a une de ce que tu dis, c'est qu'il y a quand même il y a une reconnaissance du handicap, mais du coup, on est dans une société qui est effectivement très validiste. Je suis assez d'accord. Qui, oui, t'es handicapé, mais du coup, dans l'opinion des gens, c'est soit t'es pas handicapé et t'es capable de faire les choses de manière normale, soit t'es handicapé et t'es capable de rien faire. J'ai un peu l'impression que c'est ça, des fois. Voilà.
Il y a des fois aussi où je dis le diagnostic du TSA, je l'ai eu, je sais plus, en 2017. Moi, j'étais vraiment. Ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Mais quand je fais des dossiers pour la maison départementale des personnes handicapées, à chaque fois, je dois rejustifier que je suis handicapé. À chaque fois, je dois redire pourquoi, quels sont mes problèmes, etc. En fait, j'ai l'impression de juste leur expliquer que. Et en fait, c'est ce qui est très. Très, très anxiogène, c'est que c'est eux qui prennent la décision, on sait pas sur quoi ils prennent la décision, et en fait ils te disent ou pas oui, en fait non, en fait t'es pas éligible, t'es pas assez handicapé pour avoir le droit à ce type de critère, et en fait on sait pas sur quoi ce critère se base, et c'est très problématique, je trouve, ces choses.
Bah oui, je suis bien d'accord, hein, déjà d'avoir besoin, enfin il me semble que pour faire des dossiers à la MDPH, déjà on a besoin de rejustifier par un psychiatre ou par un professionnel de santé qu'on a toujours le handicap, donc déjà ça c'est, je trouve ça embêtant.
Ça dépend si on a des diagnostics et si on a des trucs qui ont été validés à vie ou pas, enfin je sais pas trop.
Il y a plein de spécificités.
Mais je voudrais ajouter qu'en fait, ce que rencontre Colin en termes de difficultés, ce sont des difficultés que l'on rencontre à peu près dans tous les champs et tous les dispositifs que l'on peut mobiliser. C'est-à-dire qu'en fait, on a quand même beaucoup de machines qui tournent à vide. C'est-à-dire qu'on peut faire des demandes d'hébergement, mais on sait qu'on n'aura pas de réponse avant 6 mois, 8 mois. On fait une demande de logement social, ça tourne à vide parce que de toute façon... Il n'y a pas de logements qui sont disponibles selon les critères des personnes qui les demandent. Une demande de logement social en ce moment à Grenoble, en gros, si on veut une réponse, c'est 1 an et demi, 2 ans. Et encore, je suis gentille.
Ce qui est assez aberrant.
Ce qui est assez aberrant. En fait, ce sont tous les dispositifs qui sont bloqués par le manque de moyens. Et pour revenir à tout à l'heure, quand on parlait des âgés, du travail social et pourquoi il était important de se rencontrer, c'est aussi parce qu'à un moment... Quand on se rend compte que en fait, ce sont pas, nous sommes fatigués, mais non pas par les publics que nous accueillons. Ce ne sont jamais les personnes que nous accompagnons qui nous fatiguent, et pourtant on peut avoir effectivement, on peut être confronté à des accès de violence, d'anxiété. On peut être confronté à des tas de situations qui peuvent être qui peuvent nous mettre en difficulté sur le moment, mais en fait, le principal souci, c'est toujours et encore le manque de moyens. Et le fait de se rencontrer et de se le dire, bah, je pense que des fois, ça peut éviter des burn-out à des collègues qui se disent, bah, en fait, c'est pas moi qui dysfonctionne.
Oui, on n'est pas tout seul.
On n'est pas tout seul dans le dysfonctionnement.
Oui, bah, c'était ce qu'on... On en revient au fait que les âgés, c'est utile aussi pour se rencontrer. Donc, je sais pas, il n'y a qu'une AG le mardi ou est-ce qu'il y en a d'autres? J'ai pas regardé tout le programme.
Il y a une AG après la manif, voilà. Alors, il y en aura une autre le jeudi, mais avant ça, le mercredi après-midi. Et on en revient un peu à la question de la déshumanisation. Le mercredi après-midi à 14h, on va se rassembler devant la PAGE, qui est une association qui accompagne les adultes et les jeunes en situation de handicap. Où deux collègues ont été sévèrement réprimé pour raisons syndicales et l'employeur a été entièrement débouté de toutes les accusations portées sur les collègues. Et pourquoi je fais le lien avec la déshumanisation ? C'est parce que ce qui était soulevé par ces collègues-là, c'était les dysfonctionnements institutionnels, la manière dont étaient et sont malmenés les professionnels de cette association et les personnes qui y sont accueillies, prises en charge par les différents services. Et parce que ça a été pointé du doigt, l'employeur a lancé toute une série de procédures disciplinaires qui sont allées assez loin, puisque ça allait jusqu'à des mises à pied, donc avec retenue de salaire. Et assez loin, alors que l'inspection du travail vient de débouter complètement cet employeur. Et donc on va se rassembler à 14h pour réclamer des garanties. Et puis apporter notre solidarité aux collègues et puis des garanties sur les conditions de leur réintégration et la suite voilà, pour elle et lui. Et c'est à la fois dire que la répression antisyndicale n'a pas sa place, que ce soit dans le travail social ou n'importe où ailleurs. Les travailleurs et travailleuses doivent pouvoir s'organiser et porter leurs revendications sans craindre d'être réprimés. Et encore plus particulièrement dans le travail social, pouvoir dire que nos institutions, nos services malmènent les publics qu'on est censé accueillir, accompagner, aider, soutenir et qui a, voilà, je pense qu'on peut le nommer de la maltraitance institutionnelle, de la maltraitance aussi inter-individuelle et que nous, on ne veut pas cautionner ça au titre d'un manque de moyens, de demande de plus de flexibilité dans le travail, d'adaptabilité, etc. Mais tu disais tout à l'heure, on travaille avec des hommes et des femmes, quoi. On travaille avec des gens qui ont des histoires, des parcours, et on doit, si on doit s'adapter, c'est à elles et eux, et pas aux contraintes de nos institutions, et on doit pouvoir dire que ça merde quand ça merde, sans craindre la répression. Donc un rassemblement aussi qui, voilà, qui fait sens pour nous, quoi, d'aller se rassembler devant cet employeur.
Ça fait partie de des droits de manifester, de revendiquer, normalement, c'est dans la loi qu'on a le droit de manifester librement, en exprimant ses opinions.
Oui, mais c'est aussi un versant important de nos mobilisations, et notamment sur ces trois jours. C'est, effectivement, il y a nos conditions de travail et conditions d'accueil, d'accompagnement, on est beaucoup là-dessus, mais on est aussi, quand je parle conditions de travail, c'est la possibilité de dire quand ça ne va pas et de ne pas être réprimé dans ses actions syndicales. C'est aussi défendre nos conventions collectives qui sont renégociées là depuis pas mal de temps et qui sont clairement revues au rabais, et le projet qui a été retenu est même pire que celui qui avait déjà soulevé de mobilisation il y a quelques temps. C'est aussi demander de meilleurs salaires. C'est le travail social paye très très mal, une grande nouvelle. C'est demander l'extension du Ségur pour toutes et tous, parce que beaucoup de nos collègues sont encore exclus du Ségur, alors que les décrets sont passés, mais les moyens ne sont pas mis sur la table pour permettre à toutes les structures de verser cette prime du Ségur, donc la prime qui avait été mise en place après le Covid, pour les professionnels qui avaient continué d'intervenir. On applaudissait les soignants et les soignantes, à juste titre, mais nous, travailleurs et travailleuses sociaux, on était aussi sur le terrain à cette période-là et on a obtenu l'extension de cette prime du Ségur, mais elle n'est pas encore versée à tout le monde. Donc il y a aussi un versant important sur les conditions de travail, nos conventions collectives, nos salaires, la remise en cause de nos syndicats employeurs qui prennent de plus en plus d'importance dans les différentes négociations, le syndicat Nexem qui est clairement porteur du détricotage des conventions collectives et qui soutient ça à fond. Et on a des représentants locaux de ce patronat syndiqué, de ce patronat qui s'organise. Et donc nous, on doit s'organiser aussi en face. Et donc le rassemblement à 14h devant la page, il vient dire ça. Ça sera dit aussi dans la manif et par ailleurs. Mais c'est aussi important qu'on puisse cibler à un moment qu'on est face à un patronat qui participe à la dégradation de nos conditions de travail et du coup des conditions d'accueil et d'accompagnement des publics concernés.
Oui, que ça se répercute directement sur les gens que vous accueillez. Ok. Et je suis désolée, je finis le point du programme, sinon on parle 3h. Du coup, le jeudi, vous avez le temps au tranquillou, c'est comme une AG, je suppose, ou c'est vraiment un temps de partage entre
C'est plus un temps entre grévistes pour faire le point aussi sur les deux jours de mobilisation et en pouvoir envisager la suite. Okay. On aura la chance d'avoir Radio Campus aussi qui vient faire un petit plateau extérieur sur une heure avec les personnes qui seront présentes. Voilà ce que je peux dire sur le temps du matin.
Et à 14h, on se rassemblera pour la protection de l'enfance devant l'hôtel du département. Donc, tout à l'heure, collectivité territoriale en charge de l'action sociale depuis loi de décentralisation et notamment la protection de l'enfance et de l'aide sociale à l'enfance en tant que décideur et financeur. Et donc, on se rassemblera parce que il y a toujours toute une série de polémiques médiatiques autour de l'aide sociale à l'enfance. Il y a un documentaire récent là, qui est sorti sur la prostitution des mineurs et qui a beaucoup fait parler de lui, et encore une fois, à juste titre, il faut pouvoir dire que ça merde dans nos services, et c'est bien que ce soit affiché médiatiquement. Après, c'est comment on en fait quelque chose, et comment nous aussi, on arrive à saisir des problématiques qui sont repérées sur la protection de l'enfance de manière générale. Les dysfonctionnements dès les étapes d'évaluation des situations de danger ou de risque de danger pour les enfants, et puis les conditions de leur prise en charge, que ce soit par des mesures en milieu ouvert, c'est-à-dire des aides éducatives apportées directement aux enfants et à leurs familles à partir de leur domicile, et les lieux de placement pour mineurs. On a la chance, entre guillemets, en Isère, de ne pas être confronté au placement hôtelier, qui avait eux aussi fait l'objet d'un documentaire en région parisienne et dans tout un tas de villes. Mais pour autant, même si on n'a pas ces dispositifs hôteliers complètement foireux, on a des dysfonctionnements à pointer du doigt sur la prise en charge des enfants dont on a la responsabilité de la protection et de la défense de l'intérêt. Et donc, il y aura un rassemblement à 14h qui viendra aussi demander à l'hôtel du département, enfin au conseil départemental, de prendre en charge les mineurs non accompagnés, donc les mineurs étrangers présents en France sans détenteur d'autorité parentale, les mineurs non accompagnés, sinon intitulé, qui ne sont pas pris en charge à ce jour au titre de la protection de l'enfance, alors que c'est une obligation légale. Et donc, il y a un collectif qui s'est monté de mineurs concernés, et on apportera aussi ce jour-là notre soutien en tant que professionnel pour la prise en charge de toutes et tous les enfants en danger ou en risque de l'être, et dans de bonnes conditions, et pour qu'on puisse enfin sortir de toutes ces polémiques que je dis polémique médiatique parce qu'à chaque fois, c'est des documentaires un peu coup de poing, caméra cachée, ça vient montrer un peu. Mais c'est des réalités qui sont pointées du doigt, des réalités dont on doit prendre conscience et dont on doit faire quelque chose à tous les niveaux. Un niveau politique, il y a des élus là qui se saisissent. Le sénateur de l'Isère et deux élus d'opposition du conseil départemental demandent la mise en place d'une une enquête, j'ai perdu le mot, mais en tout cas se mobilise sur la question de la protection de l'enfance. Lies Loufoque, qui était candidat insoumis aux dernières législatives aussi à Grenoble, porte énormément sur cette question-là. Donc il y a la question politique, et puis il y a nous, quoi, professionnels de terrain, comment aussi on se saisit de ces dysfonctionnements, comment on arrive aussi à les nommer et comment on arrive à faire entendre notre voix pour que ce ne soit pas juste une question politique-politicienne, mais aussi une question de terrain concrète d'individus mineurs dont on doit assurer la protection. Donc voilà, à 14h, il y aura un rassemblement en ce sens-là le 18 décembre. Et à 18h, on rejoindra la manifestation en soutien aux sans-papiers, aux immigrés, dans le cadre de la Journée internationale des migrants. C'est un appel qui émane de la Marche des solidarités à Paris. Et qui a été repris localement par la CISEM, la coordination iséroise de soutien aux étrangers migrants, donc manifestation qui partira à 18h de la place Félix Poula, et donc protection de l'enfance à 14h, droit des étrangers à 18h. Le droit des étrangers, c'est la partie du droit français qui est la plus réformée. Les dernières réformes sont les lois Darmanin, qui sont une véritable catastrophe. Et voilà, sans cesse réformé, mais vers du pire sur la défense des droits des étrangers. Et nous, ça fait partie, le travail social couvre aussi cette partie-là d'accompagnement des demandeurs et demandeuses d'asile, mais aussi des personnes qui arrivent sur le territoire français et qui espèrent pouvoir s'y établir, ou qui viennent pour y travailler, qui viennent pour s'y soigner, voilà, toute une population étrangère marginalisés, hyper précarisés,
stigmatisés.
Oui, j'allais dire pas plus du tout dans la société.
Et donc il y aura un cortège travail social pour apporter aussi notre soutien aux sans-papiers et aux immigrés dans le cadre de la marche des solidarités ce jour-là, donc à 18h à Félix Poula.
Et je vous propose d'écouter un extrait de documentaire de France 3 qui date de 2019 et qui parlait déjà de ce sujet-là.
C'est leur quatrième action cette année. Ces agents territoriaux spécialisés dans la protection de l'enfance dénoncent un manque de moyens et une dégradation de leur mission de prévention et d'accompagnement.
Je suis en colère parce que je ne suis plus en mesure d'exercer mes missions. Comme j'ai pu le faire, j'ai connu un travail social de qualité. Ça s'est effondré depuis 5 ans, ça s'effondre et on s'effondre.
À Échirolles, par exemple, le nombre de signalements a augmenté de 127%. Des enfants en danger, quelquefois imminents. 40 dossiers seraient en attente, certains depuis un an. Aux élus et
aux directeurs. Nous n'avons jamais cessé d'augmenter le budget de la protection de l'enfance depuis ces 4 dernières années. Nous avons réaugmenté le nombre de places alors qu'il avait été baissé sous la précédente mandature pour les places en protection de l'enfance. Donc j'ai un petit peu du mal à comprendre, tout est fait, tout va dans le sens d'une meilleure prise en charge, d'une meilleure qualité d'accueil, d'une meilleure qualité d'accompagnement et d'un meilleur confort pour les professionnels.
Ce matin, le budget a été voté, 152,5 millions d'euros alloués pour 2020 à la protection de l'enfance, environ 2% de plus qu'en 2019. Et cela reste insuffisant pour les travailleurs sociaux.
Pour nous, ce qui est vraiment essentiel, c'est de ramener du concret par rapport à notre réalité de travail. Sur le nombre de personnes que nous recevons, sur le manque de postes, sur les absences non remplacées, sur les charges de travail que nous avons individuellement et ce que nous devons gérer lorsque les collègues sont absents.
Ces travailleurs territoriaux évoquent une précarisation généralisée et un mouvement soutenu dans l'ensemble des services sociaux isérois.
Et du coup, c'était un extrait donc, où on entendait des travailleurs sociaux s'exprimer sur le fait que les coupes budgétaires, c'était un vrai fléau par rapport à leur travail, à comment ils exerçaient leur travail. Est-ce que vous faites face encore aux mêmes problématiques aujourd'hui? Est-ce que vous avez quand même toujours les mêmes revendications? Alors, de ce que vous m'avez dit, oui, quand même un peu. Donc, est-ce que ce serait vraiment toujours d'actualité? Enfin, ça fait quand même... c'est un documentaire, qui date d'il y a 6 ans. Il y a 6 ans et on est toujours sur... Enfin, est-ce qu'il y a eu de l'amélioration par rapport à il y a 6 ans au niveau des revendications?
Moi, ce que je peux dire déjà, c'est que le contexte est complètement différent. En 2019, depuis 2019, il y a eu le Covid et là, on est dans des politiques d'austérité avec un discours autour des perspectives de la guerre qui vraiment nous met, nous, dans une tension et dans une urgence qui est autre que ce qu'on connaissait il y a quelques années. Enfin, pour moi, le contexte a radicalement changé. On parlait de la question des droits des étrangers. On est quand même sur une montée du racisme. On est sur une montée du fascisme dans plusieurs pays. Et on sent quand même qu'il y a des discours complètement décomplexés sur une partie des publics qu'on accompagne. On n'a pas parlé des personnes roms, mais elles font aussi partie des personnes qui sont à la fois stigmatisées, à la fois invisibilisées, et qu'on accompagne aussi énormément dans le travail social. Et du coup, je pense que là, en plus de devoir gérer le manque de moyens, on gère aussi le dénigrement et des publics qu'on accompagne et de notre travail. Parce que j'ai l'impression que jusque-là, on était assez fiers de notre sécurité sociale d'une manière générale en France. Et maintenant, en fait, pour moi, il y a vraiment une bataille des idées à gagner pour démontrer, pour prouver et pour revendiquer la question de pourquoi il y a du travail social et pourquoi, en fait, c'est important dans une société et pourquoi ça fait tenir, en fait. Et moi, je trouve que c'est aussi, quand tu disais, Idriss, on a peu ou pas de modèle de qu'est-ce que c'est le travail social. Il y a beaucoup de séries sur l'hôpital, il y a beaucoup de séries sur on va dire... Enfin, il y a beaucoup de séries qui qui parle de certains sujets, mais en soi, parler du travail social, moi, j'en entends jamais parler. Et le peu que ça pop dans les médias, c'est sur des scandales, en fait. Et du coup, moi, je trouve que c'est ça qui a changé aussi par rapport à 2019, c'est qu'on est vraiment dans un contexte où... Enfin, moi, j'ai plus l'impression que dans des discussions avec des personnes que je connais peu, on va ah oui, tu fais du travail. Ah oui, ton travail, c'est d'aider des personnes qui sont aux minima sociaux. Ton travail, c'est d'aider les personnes qui sont dans des camps. OK. Et il y a vraiment ce côté de méfiance. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on gagne aussi cette bataille-là de visibiliser et de pouvoir prouver, en tout cas, que ce qu'on fait, c'est important. Et qu'en fait, les gens sont là et on aura tous une vulnérabilité, une fragilité dans notre vie. Et ça me paraît aberrant de vouloir éliminer cette dimension-là, en fait, de ce qui fait notre humanité.
Et je voudrais ajouter quand même ce qu'il y a de plus en plus, c'est vraiment une stigmatisation des personnes de la pauvreté. Il y a une stigmatisation des personnes racisées. Enfin, il y a un racisme qui est réel et qui s'exprime maintenant de manière complètement décomplexée, mais aussi notamment par des actes qui sont insidieux, notamment par exemple à la préfecture de l'Isère, où il y a eu des énormes dysfonctionnements par rapport au fait que les personnes pouvaient retirer leur titre de séjour, ce qui entraînait derrière des cessations d'activité, enfin, c'est-à-dire que les personnes, en attendant d'avoir un titre de séjour valable, leur employeur ne les employait plus. Donc il y avait une descente, il y avait une spirale comment expliquer il y avait une spirale.
C'est un espèce de cercle vicieux.
C'est un cercle vicieux, mais qui est organisé, en fait. C'est-à-dire que c'est pensé, c'est réfléchi. C'est pas juste on n'a plus assez de personnes derrière les guichets de la préfecture. C'est-à-dire qu'on met en place la numérisation de la possibilité d'obtenir un titre de séjour. Mais alors, il faut appeler entre 23h et minuit le dimanche soir pour... Enfin, appeler, c'est pas un téléphone. Hein. Il faut cliquer sur un site entre 23h et minuit pour avoir l'espérance d'avoir un rendez-vous à la préfecture pour 15 jours après. Enfin, c'est organisé maintenant.
Oui, et puis il y a presque quelque chose de discriminant, du coup, envers les gens qui...
Ah non, mais c'est raciste. C'est raciste.
Oui, c'est vrai qu'on disons les termes, on dit les termes clairement. Oui.
Oui, il faut bien dire que depuis 2019, il y a eu le virage raciste et réactionnaire, et à tous les niveaux et jusqu'à la préfecture. Et puis il y a eu aussi un durcissement ultralibéral assez conséquent. 2019, alors je ne sais pas si cette manifestation c'était pour ça, mais c'était une réforme des retraites déjà.
Oui.
Et c'est là où est née d'ailleurs l'Assemblée générale du travail social à Grenoble à l'époque. Depuis, on en a eu d'autres, de réformes. Aujourd'hui, on nous demande de travailler jusqu'à 64 ans. Et il y a eu la réforme de l'assurance chômage. Il y a eu des remises en question très régulières. Et là, dans le budget de la sécurité sociale qui est en discussion actuellement, de déremboursement de médicaments, de réduire la durée des arrêts maladie. Et tout ça, ce sont des choses qui, nous concernent doublement. Ce virage que je dis, libéral, néolibéral, hyper offensif. Qui nous concerne en tant que travailleurs et travailleuses, comme tout le monde, nous aussi, il va falloir aller jusqu'à 64 ans, dans un secteur très, très majoritairement féminisé. On sait qu'à 62 ans, il y a déjà près d'une femme sur deux qui n'est plus en situation d'emploi. Tirer jusqu'à 64 ans, c'est juste augmenter de 2 ans des périodes de précarité pour les femmes. Donc nous, en tant que travailleurs et travailleuses, on est déjà concernés par ça, et on est aussi, du coup, concernés par l'arrivée de nouveaux publics massifs, la réforme de l'assurance chômage. C'est la réduction de la durée d'indemnisation et du montant d'indemnisation en fonction de l'état du marché de l'emploi, voilà, déterminé assez arbitrairement, donc décorrélé de la durée de cotisation et de la durée de travail antérieure à la durée de chômage. Donc c'est de la précarisation. Les minima sociaux ne suivent pas du tout l'inflation, qui a été aussi hyper importante depuis 2019. L'augmentation du coût de l'énergie. Donc en fait... Je dirais depuis 6 ans, la situation a plus qu'empiré. On est aujourd'hui dans un contexte qui est très critique à tous les niveaux, que ce soit le niveau effectivement des discours politiques et des virages qui sont pris en termes racistes et réactionnaires, mais aussi en termes d'offensives libérales qui sont en plus toutes passées par la force, malgré nos mobilisations, malgré le fait qu'on essaie de défendre notre modèle social. Donc il y a ce contexte-là, et puis on ne peut pas nier non plus que les gels des budgets depuis quelques temps et le manège des premiers ministres et compagnie qui sont parfois réjouissants. En voir un partir, on se dit voilà, c'est toujours un qui potentiellement ne reviendra pas, et encore.
Pas sûr.
Hein. Mais sur le terrain, concrètement, c'est assez catastrophique, en fait, parce que le fait qu'une collectivité comme le conseil départemental qui porte les politiques d'action sociale et de protection de l'enfance ne sache pas sur quel budget partir parce que le budget n'a pas été voté, ça veut dire pour nous moins de moyens ou des budgets qui ne tiennent pas toute l'année. On tombe en rade de certains budgets, notamment de remplacement de personnel absent ou d'interprétariat, par exemple, en cours d'année parce que l'enveloppe n'a pas été suffisante. Donc il y a aussi ce contexte budgétaire qui s'est beaucoup dégradé depuis...
Oui, ça vous le ressentez très clairement.
Ah, c'est très direct, c'est très direct. Voilà, on a des enveloppes, l'enveloppe de remplacement, hein, j'aurais pas à dire de bêtises sur les chiffres, mais je crois qu'elle était équivalente à celle de l'année précédente, moins 20%. Ouais. Et donc si l'année précédente on a eu par chance pas beaucoup de remplacements, ben, du coup elle tombe à zéro dans certains services, enfin, et en cours d'année comme ça on apprend, nous c'était dans l'été donc à la moitié de l'année civile qu'on n'avait plus de budget pour l'interprétariat parce que les budgets avaient été insuffisamment dotés, donc c'est une réalité très concrète, cette instabilité politique aussi qui s'est installée, et du coup cette instabilité budgétaire.
Et je voudrais ajouter quand même que la casse de ce qu'on appelle la casse du service public, elle est réelle, ne serait-ce que, par exemple, puisqu'on se réfère au moment juste avant le Covid, n'oublions pas quand même que depuis le Covid, on ne fait que fermer des lits dans les espaces de santé et que ça a un effet très direct sur les personnes que nous accueillons, puisqu'elles se font refouler, par exemple, de l'hôpital, en disant bah non, il n'y a pas de lit, on ne peut pas vous accueillir. Or, la porte qui est toujours ouverte, c'est la porte des travailleurs sociaux. Donc, nous voyons arriver des personnes qui ne relèvent pas, en fait, de ce que nous pourrions traiter. Mmh. Parce qu'en fait, il y a une telle casse que les personnes, évidemment, et c'est normal, et en plus, on sera toujours là pour les accueillir, mais se tournent vers nous alors qu'on n'a plus de solutions.
Oui, vous n'avez plus les solutions, pas forcément les compétences pour les accueillir.
Ouais, je voudrais ajouter quelque chose, c'est qu'en plus, quand on parle des budgets avec nos hiérarchies et quand on parle de nos difficultés de travail avec nos hiérarchies, quelque part, le système, il est un peu insidieux parce que nous avons des profils particuliers qui sont dans le care, et du coup, on peut supposer qu'elles savent que de toute façon, nous serons là, parce que nous sommes faits comme ça. Nous sommes faits pour accueillir. Donc en fait, on pourra couper tous les budgets qu'ils veulent. Nous n'arrêterons pas d'accueillir, mais de plus en plus, de manière de moins en moins qualitative.
Oui.
Et j'ajouterais que même quand on peut voir un point positif ces dernières années, parce qu'on dit que tout s'est dégradé, il y a eu... moi, je vois au moins dans nos secteurs deux bonnes petites nouvelles. C'est la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé, par exemple, qui est une vraie victoire. Sauf que, comme je disais tout à l'heure, les minima sociaux sont si peu revalorisés que déjà, c'est une victoire qui arrive tardivement et puis qui, de toute façon, ne suit pas le cours du coût de la vie et donc, en fait, n'émancipe pas complètement les conjoints et majoritairement les conjointes qui étaient concernées par cette déconjugalisation. Et puis la libération aussi de la parole des femmes et le fait de pouvoir plus facilement, c'est pas encore parfait, loin de là, mais plus facilement nommer les violences intrafamiliales, les violences sexistes et sexuelles. Mais face à ça, je vais dire, le planning familial de l'Isère là, fait une forme de crowdfunding parce qu'il manque de sous, en fait, du fait de l'instabilité budgétaire. Donc qu'est-ce que ça veut dire sur la prise en compte réelle de cette parole et l'accompagnement concret qu'on peut faire pour les femmes qui ont besoin de quitter leur domicile pour se mettre à l'abri dans un hébergement, sachant que de l'hébergement, il n'y en a pas. Nous sommes des professionnels qui réceptionnons cette parole-là. On est en première ligne face à ce qui me semble être une bonne nouvelle, c'est-à-dire on nomme, on parle et on peut commencer à agir. Mais en fait, l'action, elle est très vite limitée. Et on dit, nous, professionnels, à des femmes victimes de violences, qu'on n'a pas de solution et que le soir même, il va falloir rentrer à la maison. Et ça, c'est la moindre petite bonne nouvelle ou la petite avancée, de toute façon, ne se concrétise pas. Donc, on ne peut vraiment rien tirer de positif sur les 6 dernières années. C'est qu'une dégradation généralisée sur tous les champs et sur tous les secteurs. Et du coup, des arguments, s'il en fallait encore, pour se mobiliser la semaine prochaine et au-delà.
Je voudrais ajouter que quand j'ai commencé à travailler, il était hors de question, au niveau des moyens et des budgets qui étaient mis en place, qu'une femme et des enfants dorment à la rue. C'était il y a 18 ans, 19 ans. Aujourd'hui, ça ne pose plus de problème.
Oui, c'est un peu désolant. On va finir sur un constat qui est un peu désolant parce qu'on arrive vers la fin de notre émission, donc on va faire une petite musique de transition avant de faire notre conclusion. I'd like to dedicate this to all of the Creator's righteous children. I have some food in my bag for you. Not that edible food, the food you eat? No, I have some food for thought. Since knowledge is infinite, it has infinitely fell on me. So, it was a stormy night. You know the kind where the lightning strikes. And I was hanging out with some of my artsy friends. Ooh, you, you. The night was long, the night went on. People cooling out through the break. My friends like a pick my fruit. And Gany told me that when I was only a youth, I don't walk around trying to be what I'm not. I don't waste my time trying to get what you got. I work at pleasing me cause I can't please you. And that's why I do what I do. I'm so flash free like a willow tree. Do we, do we, do we. And if you don't want to be down with me, you don't want to pick from my apple tree. And if you don't want to be down with me, then you don't. And if you don't wanna be down with me, then you don't wanna pay for my apple tree. And if you don't wanna be down with me, you just don't wanna be down. I have a home, and I take it everywhere I go. Cause I'm planting seeds, so I reap what I sow. You know, on and on and on and on. My cyber keeps moving like a rolling stone. Picks my friends like a pick my fruit. Again, he told me that when I was only a youth. I don't walk around trying to be with them not. I don't waste my time trying to get what you got. I work at pleasing me cause I can't please you. And that's why I do what I do. My soul flies free like a willow tree. Do we, do we, do we. And if you don't want to be down with me, you don't want to pick from my apple tree. And if you don't want to be down with me, you don't want to pick from my apple tree. If you don't want to be down with me, you don't want to pick from my apple tree. And if you don't want to be down with me, you just don't want to be down. On my, my mind. On my, my mind. On my, my mind. On my, 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 my mind. My friends like a pick my fruit. Again, he told me that when I was only a youth. I don't walk around trying to be what I'm not. I don't waste my time trying to get what you got. I work at pleasing me cause I can't please you. And that's why I do what I do. My soul flies free like a willow tree. Do we, do we, do we. And if you don't want to be down with me, you don't want to pick from my apple tree. And if you don't want to be down with me, you dumb, dumb ditty. And if you don't want to be down with me, you don't want to pay for my apple tree. And if you don't want to be down with me, you just don't want to be down. You just don't want to be down. You just don't want to be down. Oh. You just don't want to be down. 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 You just don't want to be down. Je vais conclure un peu cette émission. Est-ce que vous avez quelque chose à dire pour le mot de la fin, même si notre mot de la fin était un peu désolant juste avant? Mais bon, c'est la réalité des choses, on va pas se le cacher.
Bah, c'est aussi un prêt.
Oui, c'est ça, ne rien lâcher. On sait qu'on vit pas dans un monde radieux. Enfin, voilà, je pense qu'on a toutes et tous conscience. Et que celles et ceux qui n'en ont pas conscience, il faudrait commencer à s'y intéresser. Mais que ça ne sert à rien de rester dans notre coin. Nous, ce à quoi on appelle et ce qu'on espère vraiment, c'est pouvoir créer voilà, de l'énergie collective, le fait de se regrouper, de lutter, de se mobiliser, de se mettre en grève, de manifester, de faire des ponts avec les autres luttes. Hein. On n'a pas le temps de tout aborder, mais il y a l'occupation de la métro contre les mises à la rue, la campagne pour la réquisition des logements vides à Grenoble qui est hyper forte. On sort d'un week-end de rencontre nationale sur la réquisition des logements vides. Enfin, faisons des ponts, rencontrons-nous, on a des choses à porter, on a de l'énergie. Et puis c'est toutes et tous ensemble qu'on aura la force de bouger les choses. Et voilà, et par la grève et par l'action, en tout cas, c'est ce à quoi on croit au sein de l'Assemblée Générale du Travail Social. Donc c'est pas si c'est positif, mais en tout cas, on a des perspectives et on peut compter sur nous-mêmes, quoi. On peut se faire confiance. Et
encore de l'espoir.
Oui, bien sûr.
Heureusement. Et du coup, on rappelle que les dates de la mobilisation, donc ce sera le 16, le 17 et le 18 décembre. Et que ça commencera donc par la manifestation le mardi 16 décembre à 13h30, qui partira du DDETS. Je l'ai bien dit correctement, là, c'est super. Et du coup, moi j'en profite pour vous dire que demain on sera en live aussi donc avec Adrien Nong, qui nous parlera d'un de ses livres, Régénération, qui est engagé pour un... Demain on parle d'écologie, donc on est sur un engagement pour un monde viable et enviable. Voilà, et donc je vous dis à demain sur Radio Campus 90.8.
Mais c'était quoi ? L'apérophonie ! Ouais, mais c'était quoi ? L'apérophonie ! C'est quoi ? L'apérophonie !
Quoi ?
Sur Campus Grenoble !
Sur quoi ?
Sur le 90.8 !
Ah, sur Campus Grenoble 90.8 !
Oui.